franceinter.fr.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France.
C'est
qui protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui tente le temps de ne pas aller trop vite. Avec aujourd'hui Sandrine Laurent et Philippe Duclos à la technique, et assisté de Stéphane Combe, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, depuis l'ouverture fin août, eh bien 11 chasseurs et 3 non-chasseurs ont été tués. J'oublie les 57 blessés. Belle moisson donc pour la chasse française. Mais on a connu mieux. Alors c'était lié peut-être à davantage de sécurité, à la crise. Moins de chasseurs d'année en année. Eh oui, ça coûte cher, le matériel de prédateurs du dimanche et des autres jours de la semaine. Bon, alors je vous parle de cela, non pas pour en remettre une couche sur nos amis protecteurs de la nature qui ont reçu l'onction présidentielle en Ariège. Et depuis longtemps, celle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Rien de nouveau dans un pays où les cartouchiers sont des électeurs comme les autres. Non, juste un petit fait divers. Donc un gamin de 12 ans est mort dimanche dernier, je vais y revenir. Depuis le 8 janvier, la chasse est fermée. Plus de poum-poum dans le foie des canards, plus de Playmobil orange fluo pour gâcher la fête des yeux au milieu du vert renaissant. Mais, on avait oublié les chasses privées. Il restera toujours quelques sangliers, oui, à récurer dans les coins des campagnes. Et ce serait dommage de les laisser se faire tuer par des algues vertes qui n'ont même pas acheté leur permis. Bon, l'ennui hélas, c'est que d'autres passionnés sympathiques et que tous entendent avoir leur part du gâteau vert. Ornithologues, forestiers, botanistes, randonneurs, vététistes, coureurs à pied, ramasseurs de rêves, contempleurs béats de la création divine, druides, couple illégitime ou amoureux épris de calmitude et de coins tranquilles. Alors dimanche dernier, 22 janvier, dans une forêt dévahie, près de Ménières en Bray, en Seine-Maritime, eh bien un père et son fils de 12 ans circulaient en quad avec un groupe d'amis dans un bois privé dans lequel se déroulait une battue avant de dévier sur une route communale. Alors le père avec son fils derrière lui s'est arrêté pour discuter avec un des chasseurs. Pas d'altercation du tout, hein, pas de conflit, juste un échange sur la façon d'avertir lorsqu'il y a une partie de chasse. Et le chasseur qui se trouvait sur un talus s'est ensuite retourné et pan, le coup est parti. Une balle dans la tempe, une vie de 12 ans donc fusillée. Alors peut-être que cette bavure tragique d'un tueur qui n'a pas totalement assimilé les consignes de sécurité amènera quelques dubitatifs à reconsidérer la place trop importante des chasseurs en France et la demande des associations d'un jour sans chasse. Car non seulement la chasse confisque par l'intimidation champs et forêts la moitié de l'année, transformant la nature en cimetière pour son bon plaisir, mais elle liquide toujours accidentellement quelques malheureux. Ça n'empêche pas de râler très fort hein, quand une directive européenne raccourcit de quelques jours une période de chasse. Alors on le sait, gérer la nature, c'est un sacerdoce, c'est une mission, c'est un devoir. Hein. On n'a que 6 pauvres mois pour réguler, équilibrer tout ça. C'est très court pour les champions de la durée de chasse dans le monde, mais une passion, c'est sacré. Je rappelle que près de 60% des accidents ont lieu le dimanche, donc à quand le dimanche sans chasse? Mais ça va pas, non? À 90 jours d'une élection présidentielle, hein? Et vous amenez ça? Et puis chasser, c'est naturel, on vous l'a déjà assez dit. En Ariège, comme ailleurs, on chasse. Bonjour Bernard Maris.
Bonjour.
Alors, je dis ça parce qu'évidemment, vous êtes originaire de l'Ariège. Et nous aurons d'ailleurs un sujet aussi sur l'Ariège. Oui, tout à fait. Donc, c'est vous qui êtes le rédacteur en chef. Qu'est-ce que je peux dire? Tenez, je vais dire ça. Vous êtes oncle Bernard pour les lecteurs de Charlie Hebdo, Bernard Maris pour l'auditeur de France Inter et l'état civil, d'ailleurs, où ses parents l'inscrivirent en Ariège. Vous êtes issu d'un pays cathare, donc vous êtes devenu naturellement hérétique en économie au pays du CAC 40. Mais la pénurie d'allumettes étant proche, je vous rassure, le bûcher est encore loin. Donc, notre rédacteur en chef du jour refuse le cloisonnement des disciplines et ce qui est humain l'intéresse, donc vous nous intéressez bien. Bernard Maris a bien tenté de se convertir à l'ultralibéralisme avec un insuccès total. Les prédations de l'école économique des Chicago Boys, de Milton Friedman, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, Goldman Sachs, j'en passe et des meilleurs, ne sont pas le genre de beauté de notre homme. Et vous venez donc récemment d'être nommé au Conseil Général de la Banque de France, histoire peut-être d'apporter un regard et une pensée différente. Lorsqu'on parle d'économie et d'écologie, quelle est votre première réaction comme ça?
C'est les ennemis. Hein. Je crois que l'écologie, bien qu'il y ait la même racine,
oui.
Hein, oikos, la maison, Mais l'économie détruit la maison et l'écologie essaie de sauver la maison, cette maison qui brûle, disait le président. Et malheureusement, les économistes, même si aujourd'hui ils se préoccupent beaucoup d'économie de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils essaient de mettre en... de calculer un petit peu les coûts et les avantages de la destruction de la nature. Les économistes, historiquement, ne se sont jamais intéressés à la protection de la nature. Sauf quelques très grands noms, Nicolas Georgescu-Roegen ou Keynes lui-même, et des Français comme René Passé et d'autres. Mais les économistes ont toujours considéré que c'était la croissance quoi, qui était le moteur de la vie sociale, qu'il fallait créer des emplois et que donc le bouleversement de la nature faisait partie de la vie humaine. Et un grand économiste qui s'appelle Jean-Baptiste Say disait « les ressources naturelles sont infinies, ne vous occupez pas de ça ». Et c'est vrai que lorsqu'on discute avec un économiste, il dit « bon, mais vous êtes un pessimiste, un malthusien, moi je suis un optimiste, je suis sûr que toujours les gains de productivité permettront de croître à l'infini, de faire monter les arbres jusqu'au ciel ». Sauf qu'il y a des choses que l'écologie prend en compte, que ce qu'on appelle les irréversibilités, malheureusement, et que l'économie, conceptuellement, est incapable de prendre en compte. L'économie pense que tout revient à l'équilibre, qu'elle est dans une physique newtonienne, c'est-à-dire qu'elle pense que finalement, il n'y a pas de flèche du temps, qu'on revient à l'équilibre, c'est la loi de l'offre et de la demande, ça monte, ça baisse. Il n'y a pas d'irréversibilité, il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de flèche du temps. Or, nous, ceux qui se préoccupent un petit peu d'écologie, sont bien conscients que... bien entendu, il y a une flèche de temps, il y a des destructions irréversibles et ils sont bien conscients que, alors que l'économie, c'est la science de l'utilité, je dirais que l'écologie, c'est plutôt la connaissance de la beauté. Je mets d'un côté la science de l'utilité et de l'autre, je dirais l'écologie, celui qui se préoccupe d'écologie, c'est quelqu'un qui a un regard poétique. Oui. Je prends un tout petit exemple. Lorsque j'ai vu pour la première fois les images de la grotte Chauvet, j'ai eu un bonheur extraordinaire. Et je me suis dit, ces homo sapiens, qui étaient comme nous, quoi, hein, qui étaient des sapiens. Je ne sais pas pourquoi on dit sapiens, d'ailleurs. Peut-être Pierre-Henri Gouillon nous dira tout à l'heure pourquoi on dit ça. Mais enfin,
sapiens, une fois, c'est peut-être d'être sage, une fois, ce n'est pas suffisant. Donc on a dit sapiens. Voilà. Au moins deux fois sage.
Et j'imaginais ces hommes qui ont représenté la beauté dans laquelle ils vivaient. Oui. Et la profusion. C'est un mot qui nous est interdit à nous, parce que nous sommes dans la rareté, dans la parcimonie, dans le calcul égoïste, dans les terres qui disparaissent. Et ça, c'est très, très économiste, hein, cette parcimonie. Donc cette profusion et cette beauté, ça, je crois que c'est un peu le regard de l'écologie. Si j'avais un souhait à faire, ce serait d'autoriser les humains à regarder les étoiles la nuit. Ah, ils auraient un peu des moments de profusion.
Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on se bagarre et que vous avez une association aussi en France qui donc nous permet d'avoir des ciels étoilés.
Voilà.
Et d'éviter
un très beau combat.
Mais bien sûr.
Et j'envie les Corses, j'envie nos concitoyens de Corse ou du Lot. Je crois que ce sont les derniers points.
Il y a un triangle dans le Lot. Exactement.
Un petit triangle dans le Lot où on peut regarder le ciel.
Alors vous avez choisi donc différents thèmes. Pierre-Henri Gouillon est avec nous ainsi que Louis-Marie Houbedine, car nous allons parler avec vous des OGM. On va parler avec vous de l'Ariège. Je pense qu'on aura le temps aussi de parler de la condition animale. Et puis, on a une actualité qui vous concerne aussi, en l'occurrence avec Frédéric Danhé, qui est à la fois scientifique d'origine, mais qui est journaliste aujourd'hui environnemental, qui a écrit son dernier ouvrage, s'appelle « La dictature du carbone ». J'avais reçu Frédéric à cette occasion. « L'atlas du réchauffement climatique ». Et là, on va parler du prix de l'électricité, parce que donc, on a quand même bien vu ça. Grâce à la loi NOM, alors est-ce que c'est que cela? On va le voir. Faisons un point, s'il vous plaît, avec vous, Frédéric Danhé, sur les tarifs EDF qui vont exploser, on va dire qu'on va prendre à peu près 30% d'ici 2016. Alors qu'en est-il et quel est en fait le mécanisme?
Le mécanisme est très simple, c'est un mécanisme idéologique et politique. Voilà, alors tout augmente, tout explose, le gaz, le fioul, l'électricité, vous l'avez dit, donc plus 30% pour l'électricité d'ici 2016, et on pourrait croire que c'est lié au fait que nos centrales qui fonctionnent très bien doivent être refaites quasiment, doivent être revisitées, que EDF doit dépenser 40 milliards à nouveau pour entretenir des centrales qui n'ont pas besoin de l'aide, comme vous le savez dans le discours. On peut imaginer aussi que c'est pour combler les investissements hasardeux d'EDF dans des équivalents américains et italiens. J'appelle tout le monde à taper sur Google Constellation EDF. C'est assez consternant de voir la perte. La perte d'argent d'EDF.
Que nous devons d'ailleurs à l'ancien président qui était M. Gadonex.
Voilà. Oui. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Ces plus 30% sont liés à ce qu'on appelle alors, la loi NOM, qui est la nouvelle organisation du marché de l'électricité, qui est l'application bête et méchante d'une directive européenne de 2003. Alors, vous savez, la Commission européenne s'émeut, elle est très émotive, et elle s'était émue auprès du gouvernement français que, en disant « Ouh là là, EDF est un monopole, ça ne va pas du tout, il faut le casser ». Alors par contre, qui est un monopole du gaz en France, GDF US, ne gêne personne. Mais là, pour l'électricité, ça gêne tout le monde. Donc on avait commencé avant à régler le problème en scindant à la fois la production et la distribution. Mm-hmm. Donc EDF, et puis ERDF. Du coup, on casse un peu...
ERTE, donc pour...
Voilà, du coup, les économies de bassin, on les perd et donc le coût de l'électricité augmente mécaniquement. Et donc la loi NOM. Alors la loi NOM, c'est quoi? C'est... Vous, EDF, vous avez des concurrents, mais ces concurrents n'ont pas votre avantage. Vous rendez compte, vous avez un avantage concurrentiel énorme, vous avez des centrales nucléaires. Bah oui, ça fait 40 ans que le contribuable les paye. Et donc, il faut que vous, EDF, vous donniez, vous vendiez au tarif le plus bas votre électricité nucléaire à vos concurrents. Comme Direct Energy, Stéphane Courby, comme qui d'autre? Il y a Monsieur Becbédé avec Poéo. Et donc on a demandé
des hommes d'affaires, quoi.
Voilà. Des hommes d'affaires qui jouent aussi beaucoup sur le poker. Ceci expliquant sans doute cela. Voilà. Et les deux sont en train de se marier d'ailleurs pour faire un pseudo géant concurrentiel. Et donc on a demandé à EDF de vendre à 32 euros le mégawatt à ses concurrents, sachant que c'est très en dessous du prix de revient. Nous, on paye sur notre facture 81 euros. Oui. Et à 81 euros, EDF ne retrouve pas tout à fait ses billes. Donc 32 euros. Proglio a dit, Henri Proglio, le nouveau patron, a dit c'est pas possible. Je demande 42. Éric Besson voulait 37. Il a obtenu 42. Et même à 42, EDF perd de l'argent.
Ça, mais c'est pour le mégawatt. Hein.
Ça, c'est pour le mégawatt-heure. Oui. Voilà, 42 euros. Mais il a prévenu que, compte tenu du fait que c'est une concurrence déloyale, compte tenu du fait que le coût de l'électricité va augmenter parce que le nucléaire est de plus en plus cher, moi, je demande 46 à 50 euros d'ici 2016. Mmh. Moyennant quoi, ce prix, enfin, l'argent que perd EDF en vendant cette électricité à bas prix à des gens qui n'en feront rien si ce n'est spéculer, je reviendrai là-dessus après, c'est amusant le marché de l'électricité, il faut bien combler le trou, et pour combler le trou, on fait appel à la facture. Donc c'est la première cause d'augmentation, on a une idéologie qui s'est imposée à l'économie, et donc parce qu'il faut une concurrence, cette concurrence, on la finance au prix fort par la facture. C'est-à-dire, c'est pas on instaure la concurrence pour faire baisser les prix, c'est on fait monter les prix pour espérer que la concurrence... s'installe.
C'est l'inverse des télécommunications où, a priori, avec une concurrence, sauf quand il y a des ententes illicites, a priori, ça fait baisser la facture. Et là, ça l'a fait monter.
Mais déjà, en soi, rendre concurrentiel un produit, l'électricité, qui est un peu l'équivalent d'un produit frais qui nous rappelle de chaîne du froid. C'est un produit très capitalistique parce que ça nécessite beaucoup d'investissements. C'est un produit qui ne peut pas se stocker. Donc, c'est un produit qui doit être produit en permanence. Ouais. Dont la production doit être ajustée en permanence, et donc on ne peut pas lui appliquer a priori la même logique que celle pour vendre une voiture ou une boîte de haricots verts.
Je voyais qu'il y avait en charge fixe 75% pour le nucléaire et simplement 25% pour le gaz. Donc on a intérêt, donc ces firmes-là, donc nouvellement arrivées sur le marché, ont donc intérêt à jouer plutôt donc sur le gaz, c'est ce qu'elles font d'ailleurs aussi.
Ah oui, elles investissent, quand elles disent qu'elles investissent sur les énergies, elles investissent sur des centrales à gaz, parce que les centrales à gaz ne coûtent pas cher à fabriquer et permettent d'ajuster les prix de façon beaucoup plus importante que le nucléaire. C'est pour ça d'ailleurs que les centrales à gaz sont très rentable au moment où tout le monde regarde, par exemple Sarkozy un dimanche soir sur 6 chaînes, tout le monde va allumer sa télé en même temps.
Avec le chauffage,
bien sûr, c'est mieux. Une pique de tension que les centrales nucléaires ne pourront pas supporter. Et là, les centrales à gaz sont tout bénéfice pour ces producteurs.
Alors, on va rajouter quand même la contribution au service public de l'électricité, qui est reversée à la fois pour obtenir un tarif social, pour une péréquation entre des départements tels l'Ariège, la Corse, les Dom-Tom, etc., avec des fermes qui sont éloignées, et aussi le financement des énergies renouvelables. C'est-à-dire que c'est pas neutre du tout.
Non, c'est pas le financement. C'est combler le deuxième trou qu'on a imposé à EDF en lui demandant de racheter à un tarif exorbitant l'électricité produite par quelques happy few qui ont pu transformer leur toiture en placement financier.
Vous allez vous faire engueuler, mais enfin, c'est pas grave. Donc, c'est ça.
mais le développement des énergies renouvelables en France est une aberration complète d'un point de vue énergétique. Ça ne fonctionne pas. Donc, on a fait des crédits d'impôt, on a on a créé un tarif de rachat 4 à 5 fois supérieur au tarif de base. Oui. Et surtout, on interdit la consommation. Donc, on a tout intérêt à mettre un maximum de panneaux solaires partout parce oui. que c'est plus rentable qu'une assurance vie et même sur un moyen terme. Raison pour laquelle aussi, si vous avez des millions à investir, je vous incite à investir sur des plateformes offshore éoliennes. C'est de très, très bons rapports. Mais derrière tout ça, ces électrons sont produits, mais vous ne savez jamais si vous pouvez les utiliser parce que vous n'avez pas le droit de les utiliser. Donc, ça ne sert strictement à rien. C'est noyé dans la masse. Et ça ne sert pas à grand-chose. Mais comme
ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes contre les énergies renouvelables. Hein, ça n'a rien à voir.
Non, mais parce non,
que
non, je suis pour qu'on
là, il y a des gens qui ont le poil hérissé. Mais c'est quoi ce type-là? C'est un pro-nucléaire, un pro-EDF.
Du tout. Non, je dis simplement que, en gros, tout le monde finance une infime minorité qui a pu gagner de l'argent sous prétexte d'énergie verte. Donc, en gros, si je veux avoir un langage un peu marxien, si ce n'est marxiste, les pauvres financent l'électricité produite par les riches. Voilà. C'est à peu près ça. Alors, cette CSPE, enfin la part liée qui n'apparaît pas d'ailleurs sur la facture.
Donc, la contribution au service public de l'électricité.
Voilà, en majorité, c'est l'abondement, c'est combler le déficit d'EDF là-dessus. Donc, on est à 9 euros en 2011, il faudra arriver à 20 euros en 2016. Mmh. 20 euros en 2016, plus allez, 50 euros au mégawattheure, alors 20 euros par mégawattheure, plus 50 euros par mégawattheure liés à la loi NOM en 2016, les factures ne peuvent qu'exploser. Donc, que peut faire le gouvernement pour limiter la casse? Ou bien il réduit la CSPE. Mais dans ce cas-là, on coupe l'herbe sous le pied des PME qui ont déjà du mal.
Qui galèrent
beaucoup. Oui. Ou bien alors, on revient sur la loi NOM. Et alors là, c'est plus possible. Là, c'est le bûcher assuré. Rendez-vous compte. Vous portez atteinte au dogme, à la doxa néolibérale. Et ça ne va pas du tout. Je termine juste. On voit bien quand même que ça augmente par une idéologie, la loi NOM, qui est en train de transférer en gros l'argent du contribuable qui a financé les centrales nucléaires sur une énergie pas chère, globalement décarbonée, vers un marché extrêmement concurrentiel, extrêmement spéculatif, qui est le marché de l'électricité. Mmh. Vous, aujourd'hui, vous achetez une électricité, un mégawattheure à 42 euros à EDF, ça vous fait un crédit. Un crédit, oui. Voilà, que vous pouvez très bien ensuite revendre au moment où tout le monde regarde la télé en même temps, c'est à ça. 80, 90, 100
euros. Je ne stocke pas évidemment l'électricité, non. Sauf si j'ai un barrage, mais
je stocke
un crédit.
Que vous libérez quand vous voulez. Ouais. Donc, ça ne favorise que le marché du trading de l'électricité.
Eh bien, alors Bernard-Marie, vous buvez du petit lait, là, effectivement. On a un exemple, là, fabuleux de ce qui se passe aujourd'hui à peu près partout, mais...
Bien, et ça, c'est cette histoire de concurrence libre et non faussée, c'est très, très intéressant parce que c'est vraiment un dogme. C'est vraiment c'est la virginité de la Vierge, quoi. C'est vraiment quelque chose dont les gens sont absolument convaincus et qui n'a aucune réalité, même chez les économistes et même chez les économistes orthodoxes. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu depuis une vingtaine d'années une évolution dans la pensée économique qui dit la concurrence libre et non faussée ne donne pas les bonnes solutions. En général, elle donne toujours les solutions les pires. Par exemple, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. C'est dans un marché de voitures d'occasion, ce sont les voitures d'occasion les plus mauvaises qui apparaissent et c'est les bonnes qui disparaissent. Bon, on le voit toujours, tous les jours sur les marchés financiers, quand il y a de la spéculation, c'est toujours le mauvais qui sort. On l'a vu au moment des subprimes. La spéculation a fait que ce sont les mauvais crédits qui sont sortis et les bons crédits ont disparu. Donc cette concurrence libre et non faussée, c'est un dogme pur dont se sont emparés les politiques. Au nom du dire, il faut donner des coups de pied dans la fourmilière, ça stimule les gens, parce que là, si on est en compétition, tous, on va s'arracher la parole, chacun va prendre le micro. Voilà. Pas du tout. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui coordonne, un coopérateur, qui organise, etc. et qui fait qu'il y a une solidarité et une coopération qui donne une solution bien meilleure que la concurrence libre et non faussée. Donc, cette histoire de concurrence libre et non faussée, qui est le dogme de la Commission européenne, nous fait faire les pires bêtises.
Merci à vous, cher Frédéric Danhé. Et puis donc, nous allons passer à notre deuxième sujet après Gauthier. Ça va être notre débat avec Louis-Marie Houbedine et Pierre-Henri Gouillon. On va se faire un... Pardon. Et donc, qui déjà est là avec nous au téléphone, juste après Gauthier sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou. Non, think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely. That was love and to make us still remember. But you did have to cut me off. Make out like it never happened. And now we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a star.
C'était Gauthier sur France Inter. Et oui, donc le premier sujet, vous l'avez compris, très joyeux, le prix de l'électricité qui va monter. On vous a expliqué un peu les coulisses, comment ça fonctionne. Autre sujet que vous avez choisi, Bernard Maris, c'est ce débat, on va dire, assez récurrent hein, sur les OGM. On voit les premières plantes transgéniques arriver en 1983. En 1996, top départ du commerce des plantes OGM. Aujourd'hui, on a quand même facilement plus de 10% des surfaces cultivées dans le monde qui sont le sont OGM. Et donc, vous souhaitiez avoir deux personnes avec évidemment des avis contradictoires. Nous avons Pierre-Henri Gouillon avec nous, qui est agronome, qui est biologiste et évolutionniste, qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, à AgroParisTech et aussi à Sciences Po, qui a coordonné avec Hélène Leriche un formidable livre qui s'appelle « Aux origines de l'environnement » aux éditions Fayard. Et puis Louis-Marie Houdebine, que je ne me trompe pas, pardonnez-moi hein, Louis-Marie tout à l'heure, biologiste chimiste, directeur de recherche honoraire à l'INRA. Vous êtes aussi expert pour les risques alimentaires à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. On va peut-être commencer par vous, parce que je sais que vous devez, c'est très sympathique de rester un peu avec nous, je sais que vous devez partir pas trop tard, mais donc d'avoir des arguments donc en faveur de ces OGM, puisque globalement, la France n'en veut pas, les politiques attendent un petit peu, voient un peu le sens du vent. Donc aujourd'hui, ça ne se fait pas. Quels sont vos arguments, monsieur Houdebine, s'il vous plaît?
Tout simplement que la sélection génétique représente peut-être 50% du progrès dans la production de nourriture. 50%, on peut contester le chiffre, mais enfin c'est beaucoup. Et qu'on l'a fait jusque depuis les débuts de l'agriculture et de l'élevage par de la reproduction contrôlée en choisissant les meilleurs géniteurs, ce qui a été très efficace puisque tout ce qu'on mange, pratiquement tous nos animaux de compagnie, nos fleurs ornementales et autres sont finalement génétiquement modifiés à force d'être sélectionnés. Et puis on s'est aperçu que la sélection, ça n'allait pas très vite. Beaucoup moins vite que ce qu'on veut. Et on a commencé à faire des mutations dans les plantes avec des agents chimiques, c'est pas très raffiné. Et ça fait émerger un certain nombre de mutants. Après, il faut trier ces mutants. On a plus de choix, mais ça revient toujours à trier du hasard. On a fait également des chimères, c'est-à-dire on s'arrange pour croiser des plantes qui ne veulent pas se croiser et on a des morceaux de chromosomes d'une plante qui passent dans une autre. C'est pas très raffiné, mais c'est de même, ça rapporte plutôt, c'est plutôt bénéficiaire et avec pas beaucoup d'inconvénients. Alors arrive le génie génétique, c'est-à-dire le fait de pouvoir isoler des gènes qui ont, on sait parfois parfaitement bien ou assez bien leurs fonctions, et on a les moyens de les transférer dans des plantes, des animaux, des bactéries. Et là, on confère directement un trait génétique par le transfert de ces gènes. Un exemple très simple, c'est les fameuses toxines BT qui viennent d'une bactérie que l'on met par exemple dans du maïs, du coton ou autre, et que d'un seul coup, ces plantes deviennent résistantes à un certain nombre d'insectes et il y a moins besoin de mettre de pesticides. Et puis c'est immédiat. Et une fois qu'on a cette transformation, on peut la croiser avec d'autres variétés de la même espèce.
Donc pour vous, les avantages aujourd'hui de ces OGM, quels sont-ils? Là, vous avez commencé à le dire, donc utilisation de moins de pesticides.
Oui, et d'obtenir beaucoup plus de mutants. C'est ça qu'on recherche. Alors ça, c'est les OGM de première génération, c'est-à-dire il y a quatre plantes pratiquement qui sont vendues à grande échelle, et ces quatre plantes ont été choisies exprès pour les agriculteurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à changer les plantes en tant que telles, on a cherché à leur conférer des propriétés agronomiques intéressantes.
Donc c'est le coton, le maïs, le soja et le colza, c'est ça ou...
Voilà, c'est ça, oui. c'est ça. Alors on est en train de passer à d'autres propriétés intéressantes qui, cette fois, sont des améliorations de la qualité de la nourriture. Alors il faut quand même dire que dans un certain nombre de cas, comme le coton, non seulement c'est intéressant pour l'agriculteur parce qu'il a moins de travail à faire, il s'empoisonne moins parce que l'épandage de pesticides, c'est pas rien. Hein. Pour nous, on ne les consomme pas, mais eux, ils les prennent dans la figure. Et dans un certain nombre de cas, c'est vrai pour le coton, les rendements de coton sont vraiment souvent assez améliorés. Hein. Augmenter. Donc les
bon, et puis ce que vous dites aussi, c'est que l'on a en France donc des grandes firmes semencières et que, en fait, en bloquant tout ceci, on prend du retard. Quoi. C'est-à-dire, alors, on prend du retard sur quoi, ça, je ne sais pas, mais...
C'est pire que du retard. Il faut considérer, alors, bien entendu, on peut toujours dire un progrès, est-ce que c'est vraiment un progrès? Là, on ne voit quand même pas. Le principe même de l'OGM est un progrès sur les méthodes précédentes. Ce qui n'élimine pas les techniques précédentes, certainement pas. Mais c'est quand même un progrès et on ne l'a plus. En Europe, on a complètement laissé tomber. On vient d'apprendre que BASF s'est ménagé aux États-Unis. Limagrain, le quatrième semencier du monde, qui est quand même une position très importante dans l'Europe et dans le monde, donc, est parti aux États-Unis. Les Européens ne cultivent pas ces plantes, pratiquement, et les achètent. Alors c'est quand même un paradoxe incroyable. On achète des OGM sans arrêt pour nourrir nos animaux. et on ne veut pas les cultiver, alors qu'il n'y a pas plus de risques en Europe qu'ailleurs.
C'est-à-dire qu'on d'ailleurs,
même à l'intérieur de l'Europe, les Espagnols cultivent.
On est d'accord, il faudrait aussi interdire le DHT.
De maïs, et ça ne leur pose aucun problème.
Oui. Alors, ce que je vous propose, déjà, Bernard Maris, pourquoi vous aviez choisi ce sujet? Parce que sujet chaud en permanence, quoi. Donc.
Parce que la transformation génétique des êtres me pose un problème majeur, moral, philosophique. Et, alors, je sais qu'on est engagé là-dedans, pas uniquement en ce qui concerne les plantes, mais aussi sur les humains, et que le génie génétique dont parle monsieur aura certainement des conséquences extrêmement bénéfiques sur, sur la santé, et sans doute des...
On a des OGM médicaux aussi qui sont intéressants et qui fonctionnent.
Voilà. Donc j'aurais... Voilà, c'est pour cette raison que j'ai choisi ça, pour essayer de comprendre un peu mieux, parce que je suis là dans une position de candide. Ma philosophie me ferait dire il ne faut pas, a priori, il ne faut pas toucher à quelque chose qui est le but ou le secret ultime de la vie, ou le, comment dire, le cœur de la vie, j'ai envie de dire. Et puis, d'une autre manière, il faut qu'on me dise pourquoi. Et que, c'est pour ça que j'ai pensé à Pierre-Henri Gouillon.
Pierre aussi, Henri Gouillon. Donc, les noms, vous y avez pensé. Donc, agronome, biologiste et évolutionniste. Donc, je vous en prie aussi.
Bien, je voudrais répondre plusieurs choses. Premièrement, dire que la sélection, ça ne va pas assez vite. Et qu'on va plus vite avec de la transgénèse, c'est quelque chose qui... C'est une affirmation parfaitement gratuite. Comment on mesure la vitesse? La vitesse de quel progrès? Comment on les donne? Donc ça, c'est un premier point. Évidemment que la sélection, ça marche bien, ça produit. Et la sélection, quand on la réalise dans certaines conditions, c'est-à-dire dans des conditions très délocalisées, avec une grande diversité de lieux dans lesquels se déroule la sélection, elle a une qualité extraordinaire. C'est que non seulement elle permet un progrès dans la production des plantes, mais aussi dans leur diversité. Et c'est ce qui s'est passé avec toute l'histoire de la vie. Toute l'histoire de la vie, c'est l'histoire donc de la reproduction d'êtres vivants soumis à la sélection naturelle et qui ont progressivement réussi à coloniser tous les milieux, non seulement donc avec une efficacité croissante, mais en plus avec une diversité extrêmement grande. Le problème numéro un pour moi de l'utilisation des biotechnologies, c'est que ça réduit terriblement la diversité des êtres vivants qu'on est en train de manipuler. On s'est fait avoir sur l'histoire, sur la dénomination de ces organismes. Au départ, on a parlé d'ADN recombinant dans les années 70, puis de manipulation génétique. Et OGM, ça voulait dire organisme génétiquement manipulé. Nos amis, les biotechnologues, ont dit que manipuler, ça faisait méchant et qu'il fallait dire modifier à la place. Et on a bêtement cédé. Et donc, OGM, maintenant, officiellement, ça veut dire organisme génétiquement modifié. Et maintenant, ils viennent nous dire, comme vient encore de le faire Louis-Marie, que modifier les plantes, on l'a toujours fait avec la sélection, etc. Seulement, modifier avec la sélection et manipuler le génome, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose pour plusieurs raisons. Pour des raisons techniques, d'abord, parce que notre connaissance du génome est extrêmement faible. On a beau l'avoir séquencé, on ne comprend pas grand-chose à ce qui s'y passe. Que des Chinois ont encore montré récemment que certains gènes pouvaient induire la production de micro-ARN, non seulement dans la plante, de façon totalement inconnue des gens qui fabriquent ces manipulations, mais même dans les humains qui les mangent, on ne sait rien. Ce n'est pas que c'est dangereux en soi, c'est que juste on ne sait rien. Quand on modifie des trucs sans rien y comprendre, on prend quand même des risques assez sérieux.
Louis-Marie,
ça, c'est le premier point.
Oui, surpris.
Le deuxième point, c'est effectivement cette homogénéisation terrifiante qui est en train de réaliser l'opération. Et pourquoi une homogénéisation terrifiante? Eh bien parce que derrière les OGM, mais pas seulement derrière les OGM, derrière toute une manière de voir l'agriculture actuelle, dont les OGM font lourdement partie, il y a la prise de possession totale des ressources génétiques par quelques firmes, qu'a cité d'ailleurs Louis-Marie Houdbine. Il n'a pas cité Monsanto, c'est dommage, évidemment, c'est eux qui sont en tête, mais en quatrième position, il a cité les Français. Donc, effectivement, ça, c'est un immense danger pour l'agriculture, parce que toute la durabilité de nos cultures repose sur la diversité des plantes. Et ces plantes, eh bien, on est en train d'en foutre en l'air toute la diversité. Et la chose que je trouve extraordinaire, qui rejoint d'ailleurs le débat de tout à l'heure sur EDF, c'est que, en fait, on laisse jouer la libre concurrence et donc tout ira bien. On laisse jouer les boîtes de semences entre elles. Mais les boîtes de semences entre elles, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de se battre pour nous déposséder de la richesse de l'humanité qui sont les plantes cultivées. Et quand on dit ça, eh bien, c'est très drôle. Je suis allé dire ça, moi, à l'Académie des sciences, il y a quelque temps, dans une un débat sur la biodiversité. Et que m'a dit un de mes chers collègues qui défend les biotechnologies? Il m'a dit, c'est scandaleux, tu as profité du fait que tu étais à la tribune pour promouvoir ton idéologie. C'est-à-dire que quand je dis que cette manière de prendre le problème, qui a l'air purement technique et qui n'a pas l'air idéologique, pose des vrais problèmes graves sur l'avenir, à travers un problème économique,
vous êtes
je fais de l'idéologie. Ouais. Alors que lui qui défend Monsanto, il ne fait pas de l'idéologie parce que Monsanto, c'est juste une boîte comme les autres qui essaie d'améliorer les plantes.
Bien sûr.
Eh ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche le monde. Il faudrait que les gens qui travaillent dans les laboratoires en sortent un peu, aillent discuter avec Bernard Maris et comprennent que le monde n'est pas seulement fait de bisounours qui essayent d'améliorer la production.
Alors, Louis-Marie Houdebine, donc là, il y a un certain nombre d'arguments. Quels sont donc les vôtres par rapport à tout cela, sur la perte de biodiversité, d'ailleurs, entre autres?
Je ne peux pas le croire, parce que d'abord
Là, les données sont fort belles. On a maintenant des études qui montrent que les nombres de variétés, que les variétés se ressemblent de plus en plus et qu'il n'y a presque plus de différence entre deux variétés.
Mais ceci était d'abord et avant tout avant les OGM.
Non.
On a réduit le nombre de races de vaches, etc., de plantes, et c'est ça, ceci est déjà dans la main d'un nombre très réduit de semenciers. Alors que les OGM, ça n'est pas forcément du tout ce qui se passe, parce que on peut fort bien transférer des gènes sur toute une série de fonds génétiques abandonnés et qu'on peut ressusciter de cette manière-là, soit directement, mais surtout par des croisements. Et opposer à tout prix la bonne sélection classique qui n'est que bonne et l'OGM qui est comme mauvais, non, mais enfin, ça ne tient pas de bon. Les deux doivent cohabiter, absolument.
Alors les deux ne peuvent pas cohabiter, comme tu le sais très bien, parce que lorsqu'un gène est breveté et qu'un agriculteur voit ses semences contaminées par les semences du voisin, par les pollens du voisin, il n'a plus le droit de ressemer ses semences. Donc en fait, le principe même du brevet interdit toute cohabitation, interdit qu'on revienne. Je pense qu'effectivement, l'agriculture avant les OGM était déjà catastrophique. On est bien d'accord. Les OGM ne font que renforcer une tendance catastrophique. Mais il y a des mouvements qui essaient d'aller dans l'autre sens. Il y a des gens qui font des recherches à l'INRA, évidemment. À l'INRA, il y a une personne qui fait des recherches sur la sélection participative contre des milliers qui font des recherches sur le fait de faire des biotechs. Alors, ça avance moins vite. Hein. Mais il y a des gens qui font des semences paysannes qui essayent de voir avec certains chercheurs comment remettre en œuvre une sélection qui fabriquerait de la diversité. Et dire qu'on va aller repuiser des vieilles variétés, c'est encore une fois ne pas se placer dans une démarche durable. On est en train de dire, on puise dans la diversité comme une mine. C'est une agriculture minière, une agriculture qui dévaste ce qu'elle utilise. Alors que refabriquer de la diversité, puisque la nature a pu le faire, normalement on devrait pouvoir le faire nous aussi. Et la preuve, c'est que les agriculteurs du néolithique jusqu'au milieu du 19e siècle ont produit énormément de diversité. Et aujourd'hui, tout ce que j'entends, moi, chez les biotechnologues, c'est qu'on va réussir à sauver quelques-unes des vieilles variétés qu'ont fabriquées ces pratiques. Alors, mais ce n'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on refabrique de la diversité. Non, ça veut dire que les agriculteurs doivent redevenir propriétaires de leurs semences, travailler avec des boîtes de semences, avec l'INRA, pour mettre en place une sélection qui refabrique de la diversité. C'est parfaitement faisable. Simplement, ça n'intéresse pas les entreprises, évidemment, parce que c'est certainement un système dans lequel elles ont de beaucoup moins gros profits à faire. Alors, eh bien évidemment, sans faire d'idéologie, on peut comprendre que les entreprises, et donc les gens qui essayent de les servir, empêchent que ça se passe.
Louis-Marie Houdebine.
Oui, je ne comprends toujours pas pourquoi vous opposez le bien et le mal sans arrêt. Parce qu'il y en a un là-dedans qui est le bon et l'autre qui n'est pas le bon. Les semences traditionnelles, etc. En quoi ça s'oppose? L'OGM apporte un trait génétique intéressant qu'on peut mettre sur n'importe quelle variété.
Mais et on n'a pas le droit de le reproduire sans payer des taxes.
Mais l'expansion, ce n'est pas gratuit, les semences sélectionnées. Donc... Mais
lorsqu'un agriculteur, jusqu'à une époque récente, quand les agriculteurs ressemaient leurs semences, ils n'avaient pas besoin de payer des taxes. Il a fallu que très récemment, le lobby des semenciers arrive à faire payer des taxes aux agriculteurs quand ils ressemaient leurs propres semences.
Il faut savoir si les agriculteurs trouvent un meilleur produit en achetant des semences relativement perfectionnées. Le maïs, on l'achète à chaque génération. Pourquoi? Parce qu'on a des hybrides et que c'est plus intéressant.
C'était vrai dans les années 50, c'est plus vrai.
Si la récolte, il verra bien le rendement. Ils ne sont pas fous. Pourquoi ils font tout ça? Pourquoi les Indiens qui ne sont pas riches ont 80% de leur coton qui est génétiquement modifié alors qu'ils sont absolument ravis?
Alors, juste pardonnez-moi, mais il y a aussi un phénomène de résistance que l'on voit apparaître de plus en plus, que ce soit sur le maïs, que ce soit sur le coton. Il y a aussi des phénomènes de résistance aujourd'hui. Donc,
parfaitement. D'abord, ça n'a été pas forcément bien géré par les agriculteurs eux-mêmes, ni par Monsanto, mais surtout, c'est sur des problèmes classiques en agriculture. Dès lors qu'on met un produit quelque part, comme un antibiotique, au bout d'un moment, il y a des résistances.
Si on le met n'importe comment. Et enfin, quand même, tu as dit tout à l'heure que le... Tu as dit tout à l'heure que le fait d'utiliser les OGM avait réduit la quantité de pesticides. C'est vrai pour les insecticides sur
les
maïs.
Cotons, oui.
Tu sais très bien que c'est totalement faux pour ce qui concerne les herbicides, pour les OGM résistants. Non, absolument plus, c'est fini.
Non.
Ça fait belle lurette que le degré de tolérance des mauvaises herbes est devenu tel que les agriculteurs
mais
qui utilisent
dans
des... pas dans quelques endroits, à peu près partout maintenant. On est à plus de 3 fois la dose qui était mise au départ partout. Et je ne te parle pas des résistances, je te parle des tolérances. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les agriculteurs qui utilisent des plantes résistantes au Roundup mettent des quantités de substances actives en Roundup bien supérieures à ce qui se mettrait avant qu'on utilise des OGM. Donc ça marche encore pour les insectes. On sait très bien que ça n'a pas marché longtemps parce que les insectes commencent à développer des résistances. Ça marche déjà plus pour les mauvaises herbes.
Alors juste un tout petit mot de fin, Louis-Marie Houdebine. Voilà, rapidement, parce qu'après je sais que vous devez vous sauver, puis on a d'autres sujets donc derrière. Mais juste un petit mot de fin pour vous.
Je voudrais parler de la manière dont c'est géré en France particulière, avec cette clause de sauvegarde auquel on ne comprend rien du tout, parce que les experts dont je fais partie donnent des avis, et bien entendu, ils ne prêtent pas de décision.
Oui.
C'est les représentants du peuple qui le font. Ils ont parfaitement le droit de ne pas de faire une clause de sauvegarde. Ce que l'on trouve intolérable, c'est qu'on s'appuie sur des arguments scientifiques qui n'existent pas. Alors ça, c'est d'abord mensonger, et ensuite de ça, ça va dévaloriser complètement le rôle des experts. On ne va pas maintenir des experts si à chaque fois qu'ils donnent un avis, on détourne au profit du politique leurs conclusions. Ça ne va pas. Donc il faudrait que ces choses-là soient claires.
Merci.
S'il n'y a pas de maïs en France, c'est pas forcément grave, mais au moins qu'on n'ait pas triché.
Merci à vous, Louis-Marie Houdebine. Bernard Maris, par rapport donc à ce thème.
J'aimerais juste répondre un petit peu. Oui. D'abord, j'ai été un peu expert sur ces questions, moi aussi. Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que je ne suis pas au Conseil actuel, pour la bonne raison que je ne suis pas considéré comme objectif, dans la mesure où j'appartiens à une instance qui s'appelle le CRIGEN, Comité de Recherche Indépendante et d'Information Indépendante sur le génie génétique, alors qu'un certain nombre d'experts qui sont dans ce comité ont des brevets en commun avec des entreprises. Donc on voit bien que le concept d'indépendance de l'expertise dans ce comité a été fait d'une drôle de façon. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on a déposé cette clause de sauvegarde, on a été invité par l'EFSA, en tant qu'expert, à aller expliquer pourquoi. Et une des raisons majeures pour moi de cette clause de sauvegarde, c'est quand même la contamination des champs des gens qui ne voudraient pas produire des OGM. Et le fait qu'actuellement, tout le monde sait que même avec une contamination de simplement 0,1% chaque année, en envoyant des OGM chez les voisins, on va finir par faire que le voisin contient pas mal d'OGM. Eh bien, cette remarque, la réponse de l'Europe a été très claire. Ça a été, c'est pas un problème d'environnement, on ne veut pas s'en occuper.
Voilà. Bernard Maris
Moi, ce qui me choque en général, c'est le concept de brevet, si je puis dire. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse, pour des raisons marchandes, s'accaparer une partie de la connaissance humaine qui a été transmise de génération en génération par les humains. Et le fait que certaines firmes aillent breveter des plantes qui appartenaient à des traditions locales. Mais ça me choque aussi bien pour la culture. Hein. Je pense qu'on devrait, en matière culturelle, se dire que nous sommes des nains sur les épaules des géants, pour reprendre une
expression d'Amézène et qu'il aime bien.
Que j'aime beaucoup, parce que si nous savons écrire, nous savons parler, parce que nous avons lu les grands maîtres, etc. Et donc je pense que, de ce côté-là, mais c'est une question que je pose aux chercheurs. Moi, je suis très, très content de la poser à des chercheurs. Je pense que le brevet crée des marchés, c'est sûr, crée des spécificités, détruit beaucoup et ne fait pas nécessairement avancer autant la science qu'on le voudrait. Je pense qu'il faut, d'une certaine manière, penser que la science, c'est quelque chose d'absolument collectif et d'absolument solidaire. Or, le brevet, c'est quelque chose de particulier et d'égoïste et d'individualiste. Donc, pour moi, il y a une incompatibilité totale.
Merci beaucoup, Pierre-Henri Gouillon, ainsi que Louis-Marie Houdebine, donc pour ce débat OGM aujourd'hui. Et on va faire un petit tour dans quelques instants dans le département de l'Ariège. Ce sont vos origines. Vous êtes né à Toulouse, mais ce sont vos origines. Toute la famille, tout le berceau des Maris est de là-bas. On part en Ariège après Camille.
Allez, 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 à chaque prends la force, c'est fastoche de ma chanson, de ma chanson. Allez, allez.
Ah bah oui, allez, allez, c'est un album France Inter, hein, c'est Camille sur France Inter, donc nous sommes bien dans CO2, mon amour. Nous ne remercierons jamais assez Bernard de Chartres, qui a été repris par Amezen. Oui, moi j'ai fait le raccourci tout à l'heure, effectivement, les nains sur les épaules de géants. Et bah c'était grâce à lui, à cet homme du 12e siècle. Et au 12e siècle, il y avait quoi? Il y avait quoi en Ariège? Il y avait des cathares, on les faisait brûler. Car vous avez effectivement... On a, vous avez vu l'enchaînement, en enfer. Parce qu'on peut. Oui, non, parce que dans ce département de l'Ariège, vous avez des gens très connus. Vous avez les Magdaléniens, vous avez Gaston Phébus, vous avez Fabien Barthès et vous avez Bernard Maris.
Oui.
C'est pas mal. Hein, comme,
qui va régulièrement à Axe-les-Terres en Ariège, au pied de l'Andeau.
Oui, ouais. Alors dites-nous un peu, parce que je sais aussi qu'on va dire que cet amour de la nature que vous avez eu, je pense que vous l'avez eu en partie dans ce département de l'Ariège.
Ah, c'est un département, il ne faut pas trop en parler parce que les gens vont débarquer là-bas. C'est un
département
qui absolument, il y a de la marge, oui, mais c'est très loin d'abord. Mais c'est un département absolument merveilleux, oui, qui n'a pas été trop gâché encore par les stations de ski et tous ces trucs qui abîment la montagne d'une façon absolument désespérante. Ce sont des gens assez rugueux, il faut dire. Hein,
oui, oui.
Bon, et qui n'aiment pas trop les étrangers. Hein. Les Toulousains sont des étrangers, bon, c'est sûr. C'est des gens
et pourtant, c'est une
et puis qu'il y a une histoire très très forte avec justement bon, la grotte de Niaud et toutes les grottes ariégeoises. Et puis l'histoire des cathares, qui est, les châteaux cathares, qui sont plutôt à la frontière de l'Ariège, mais c'est à côté, à l'Aude, dans l'Aude, hein, c'est à côté, le château de Puyverne, qui sont des châteaux formidables, le château de Lordat, à côté d'Axe-les-Terres.
Mais ça forge un esprit de résistance, hein, quand même.
Ce sont des résistants. Oui. Ils ont d'ailleurs joué un très grand rôle pendant l'occupation. Oui. Ils ont été des passeurs, ils ont été très très courageux. Ce sont des résistants. Ils sont très attachés à leur territoire. Ils n'aiment pas trop les ours, hein, là-bas. Il faut dire.
Non,
que...
bien,
L'ours n'est pas tellement le bienvenu à l'arrière.
Pas du tout. Non, ça, vous parlez de l'ours à l'éleveur, là-bas, ils ont le fusil tout de suite.
Oui, bien sûr. Ça ne leur plaît pas. Bon, c'est un pays... Mais on voit les étoiles. Enfin, encore qu'il faut sortir maintenant d'Axe-les-Terres, parce qu'ils mettent des trucs un petit peu partout. Mais c'est vrai qu'on a des ciels, peut-être pas aussi beaux que les ciels de Normandie, mais on a des ciels très, 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 très beaux. C'est un département merveilleux. Il n'y a pas d'autoroute encore, je crois.
Non.
C'est l'un des derniers départements sans autoroute.
Voilà. C'est d'ailleurs aussi, non pas curieux, mais c'est une entité, on va dire, administrative, l'Ariège, parce que culturellement, vous avez, on va dire, deux parties assez distinctes.
Absolument. Oui, il y a le fameux col, allez-y.
Avec le col de Port, oui, qui est vraiment la ceinture. Vous avez donc, d'un côté, une partie qui est tournée vers la Guyenne, donc, on va dire vers l'Aquitaine, et puis donc, c'est le pays de Couserans. Et puis de l'autre côté, c'est le pays de Foix, qui lui est beaucoup plus tourné, déjà méditerranéen, avec vraiment une césure, mais aussi bien physique que culturelle.
Bien sûr.
Redescend donc, chez vous, sur Foix, sur Axe-les-Thermes.
On passe le col du Fioulard. On descend vers Quirigut et on a la mer. Quoi. On voit d'ailleurs la mer depuis le col du Choula. C'est pas vrai, hein, je dis ça.
Alors nous avons en ligne Yoran Jolivet, auditeur de Ce haut de mon amour depuis longtemps, mais aussi accompagnateur en montagne, donc dans les Pyrénées. Bonjour Yoran Jolivet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors voilà, donc quelques mots peut-être aussi de cet Ariège à point de vue environnemental et écologique, s'il vous plaît, parce que donc ça va faire plaisir à Bernard Maris et nos auditeurs. On parle très peu de ce département, malheureusement. Voilà, donc là aussi, il y a eu tout un brassage humain très intéressant. Hein.
Oui, tout à fait. Bah, déjà, je n'irai pas à l'encontre de ce que vient de dire Bernard Maris sur le côté sauvage et magnifique du département. Ce qui plaît beaucoup, hein, nous, dans le cadre des groupes qui viennent, c'est le côté vraiment contré sauvage, où vraiment, des fois, on a l'impression de faire un bond de plusieurs siècles en arrière ou de plusieurs milliers de kilomètres, et de diversité de territoires. C'est vrai qu'entre la vallée d'Axe et le Haut-Couserans ou le Piémont calcaire un peu rugueux, on fait vraiment des sauts assez, assez intenses. Et on retrouve cette diversité aussi dans le milieu humain. C'est vrai qu'il y a tout un côté très montagnard, pyrénéen, fond de vallée, où voilà, des fois c'est un petit peu rude, hein, quand on rentre dans un bistrot en hiver à 18h dans un village, bon, on se fait regarder, voilà, mais c'est un peu étonnant.
Il est d'où, c'est qui celui-là? Oui.
Voilà, qui est d'où, on ne connaît pas. Et en même temps, depuis les années 70, c'est vrai que l'Ariège a été aussi une destination aux côtés de l'Ardèche, qu'on confond souvent, et du Larzac, où il y a une vague un petit peu néo-rurale qui est venue chercher ce côté sauvage. Ces gens-là se sont installés. Bon, certains sont repartis, ils ont vu que la communauté, c'était pas si facile que ça quand on venait de Paris et qu'on se retrouvait sous le col de Port. Mais un grand nombre sont restés, ont fait des enfants qui ont été à l'école avec les enfants des villages à côté. Et voilà, ça fait un brassage qui fait qu'aujourd'hui, quand on se déplace, on a voilà, ce mélange de gens qui sont arrivés plus tard, qui ont amené un nouveau dynamisme, une nouvelle économie. Donc il y a beaucoup de producteurs en bio, de miel, de fromage, beaucoup d'éco-construction. C'est vrai qu'ici, ça construit un peu partout, en paille, en chanvre. Voilà, donc il y a ce dynamisme-là. À côté...
Avec de l'autosuffisance, hein, très souvent. Moi, j'ai très vu en Ariège. Ça fait partie aussi, presque des gènes, hein, là-bas, de l'ariégeois.
Tout à fait. Il y a vraiment une réflexion autour de l'autonomie, de l'autosuffisance. Alors, on va le retrouver si on va dans le Massatois, qui est un peu connu pour ça. Voilà, il y a carrément des endroits, on vit sous yourte, sous tipi, et c'est très, très, très reculé. Donc là, il y a de l'autosuffisance.
Et alors, pour faire plaisir aussi à Bernard Maris, entre guillemets, c'est que je crois que c'est un des coins de France où on a inventé les premiers systèmes d'échange locaux, ce qu'on appelle les sels.
Les sels, oui.
Tout à fait. Le sel, le premier sel français est né en Ariège, pas très loin de Foix, en 94, pour justement essayer de formaliser quelque sorte des pratiques qui se font ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est des milieux ruraux où l'entraide, la solidarité ont du sens, parce que c'est nécessaire. Et donc, c'était un moyen de dire, je te dépanne ma voiture et toi, tu donnes des cours de soutien à mon enfant, on va mettre des grains de sel pour un petit peu ritualiser ça.
Bernard Maris.
Oui, juste pour dire que le sel, ça permet l'échange solidaire, le sel, et ça interdit l'accumulation. Donc c'est un système d'échange qui permet à des gens de travailler. Par exemple, j'échange de la garde d'enfants contre des livres, des choses comme ça, ou des produits locaux, mais... C'est de la monnaie fondante qu'on ne peut pas accumuler. Ce n'est pas capitaliste. Voilà.
On ne peut pas spéculer dessus. Ouais.
Voilà.
Et ça fonctionne. D'ailleurs, ce sel a eu quelques difficultés plus tard. C'est vrai qu'après, on arrive à des. Il y a des seuils d'échelle. Quand on arrive au-dessus de 200, 250 personnes, les gens se connaissent moins. Il y a moins la confiance. Mm-hmm. Et y a les travers humains qui commencent à jouer, où justement, on essaie d'accumuler, de grappiller, d'être moins honnête. Quoi.
En tout cas, merci à vous, Yoann Jolivet, hein, pour cette petite incursion de l'Ariège. Et bien au contraire. Merci à vous, on pourra en parler davantage. Moi, je vous promets de revenir pour faire des sujets, des reportages dans CO2 Mon Amour. Mais on a un autre sujet qui intéresse bien Bernard Maris, c'est la protection des animaux. Alors, effectivement, pourquoi ? On a Aurélia Varin-Ramette en ligne, qui est éthologue, qui est chargée de campagne auprès du grand public et dans le milieu agricole pour l'Association mondiale des protections de la protection des animaux de ferme. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le sujet ?
Alors, je suis... Bon, je suis navré, par exemple, par le classement de la corrida au patrimoine immatériel. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument navrant.
Je voudrais juste dire un truc. Pierre-Henri Gouillon.
Je ne suis pas vraiment pour, mais entre la corrida et l'élevage industriel des bovins, il n'y a pas photo pour moi.
Voilà, d'accord. Mais ce dont je voulais parler, ce dont je voulais qu'on parle, c'était de l'élevage. Et je pense que... je suis optimiste. Je pense que les mœurs évoluent vers le bien. Oui. C'est-à-dire qu'on ne traitera pas les animaux demain comme on les a traités dans le passé. Je pense que ces massacres, on doit aux Romains d'avoir dépeuplé entièrement l'Europe et l'Afrique des bêtes magnifiques qu'elles contenaient pour les massacrer pour le plaisir des yeux. Et c'est absolument abominable. Et je pense que nous avons un devoir... morale vis-à-vis des animaux et que nous montrerons de l'humanité et de plus en plus d'humanité lorsque nous serons attentifs aux animaux. Il est inadmissible de faire souffrir les animaux et des animaux extrêmement intelligents comme les poules par exemple, qui sont des animaux de compagnie merveilleux. Je ne sais pas si on peut adopter des poules et vous verrez l'affection que vous porteront ces volatiles qui sont d'un humour presque aussi grand que les chats. Donc je pense que l'élevage c'est quelque chose qui doit être absolument réglementé, et on ne peut pas faire souffrir les animaux.
Alors,
pour moi, c'est quelque chose d'évident.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, Aurélia Varin-Ramette ? Là, vous avez juste quelques minutes, j'en suis désolé. Heureusement qu'il y a aussi la très bonne émission Vivre avec les bêtes, avec notre ami Alain Bougrain-Dubourg, le dimanche à 15h. Mais qu'en est-il ? Juste un petit point, s'il vous plaît.
Alors, globalement, effectivement, M. Marie, ça fait un très bon tour de réseau. Aujourd'hui, les animaux qu'on élève sont des êtres sensibles, qui peuvent ressentir des émotions et qui, malheureusement, sont souvent élevés dans des conditions très difficiles, encore aujourd'hui en France. On a 8 poules sur 10 qui sont élevées dans des cages où elles ont seulement la surface d'une feuille A4 pour vivre. Et donc ça, c'est absolument inadmissible quand on sait que les animaux sont très intelligents, mais surtout qu'ils peuvent souffrir. Et aujourd'hui, je dirais que le plus important et ce qui manque vraiment aux gens, c'est la responsabilité en tant que consommateur. C'est-à-dire que les gens doivent vraiment se rendre compte que quand on a un morceau de poulet dans l'assiette, on est finalement responsable du mode d'élevage de ce poulet. Et donc du coup, en achetant un poulet ou en achetant un autre, par exemple si on achète un label rouge élevé en plein air, on va favoriser des modes d'élevage qui sont respectueux des animaux et non pas un mode d'élevage où malheureusement, par défaut, ils sont entassés à 20 poulets par mètre carré et où là, on a une souffrance animale très forte.
Oui, parce que juste un simple chiffre, globalement, il faut savoir qu'il y a 1 milliard de bêtes qui sont abattues en France, dont 850 millions de poulets, donc ce sont vraiment les gallinacés qui sont en tête de chapitre. Après, on va avoir 15 millions de porcs, et puis en gros 1 million de bovins. Bon, c'est pour donner l'ordre d'idée, mais c'est ça, on a quand même 850 millions de poulets. Et on ne peut pas dire exactement qu'on les élève dans de formidables conditions aujourd'hui.
Malheureusement non, c'est 850 millions de poulets et ils sont élevés à plus de 85% dans des bâtiments fermés avec une lumière artificielle et où je vous disais, ils sont à 20 poulets par mètre carré. Donc vous imaginez, vous prenez un carré d'un mètre sur un mètre, vous mettez 20 poulets à l'intérieur. C'est vraiment des conditions d'élevage qui sont très difficiles et où encore une fois, les animaux ressentent ce milieu de l'élevage comme un stress et en souffrent. C'est vraiment le point principal. C'est pas comme quand on élève, voilà, quand on va planter des blés ou une carotte. Là, c'est vraiment l'animal, il va ressentir
Merci.
Il peut souffrir et on est donc responsable de ces conditions de vie.
Voilà, quelle est la réussite pour les animaux, le consommateur. Merci Aurélia.
Juste un mot pour dire, longtemps on a cru que les enfants ne souffraient pas.
Exact.
La vieille société croyait que les enfants ne souffraient pas. Il fallait voir comment étaient traités les enfants. Donc, et on s'est grandi en tant qu'humain en prenant en compte la souffrance des enfants. On se grandira en prenant en compte la souffrance des animaux.
Pierre-Henri Gouillon.
D'ailleurs, ces modes d'élevage sont tellement malsains que sans des quantités folles d'antibiotiques, ça ne pourrait pas tenir.
Exact. Merci beaucoup. Merci à vous, Bernard Maris. Bon, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau portrait chez Alexandra Ben Saïd à 9h, bien sûr. Et puis, oncle Bernard, Charlie Hebdo à la Banque de France, que sais-je. Merci Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Stéphane Combe, Valérie Ayestaraï. Jean-Baptiste Audibert, Anne Gouzon qui nourrit les sites de Niche et Sourd, on se retrouvera la semaine prochaine avec des métiers de l'écologie. Donc, si vous êtes jeune, même moins jeune, eh bien, vous écouterez cette émission, si, avec délectation. Un peu de pub peut-être.